Vous êtes chef d'entreprise ou conjoint d'une entreprise artisanale et vous êtes non salarié? Savez-vous que vous contribuez chaque année pour bénéficier d'un financement de vos formations? Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est toujours très heureux de vous retrouver, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast, tous les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG sur les salaires en Ligue 1. Toujours important de parler d'argent avec les grandes gueules du sport, évidemment. Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé. La somme par mois est assez impressionnante, 6 millions d'euros. Y a-t-il un vrai côté dérangeant? Vous me direz tout ça, mais GG. 10h, nous allons passer la seconde autour de l'archi-domination des Red Bull depuis le début de la saison de Formule 1. Max Verstappen a encore signé la pole ce matin en Australie. Red Bull a-t-il déjà plié la saison? Et puis 11h, le bras de fer des GG autour de Lionel Messi, envoyé un petit peu partout dans le monde, un jour, une destination, Messi à Barcelone, Messi en Arabie Saoudite, Messi à Miami, Messi à Bourg-en-Bresse avec David Douillet. Bref, Lionel Messi fait-il encore rêver? Ce sera notre débat. Nous parlerons aussi de l'Olympique de Marseille ou encore d'Arthur Fils un petit peu plus tard. Et puis ne manquez pas votre nouvelle séquence dans cette émission, le guet-apens pour les GG. Le fameux débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Restez bien avec nous, le débat caché sera extraordinaire encore une fois aujourd'hui. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, touche un salaire indécent. Et lui non plus, tu lui parles pas d'âge. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Indécent, ouais. Par rapport au tien.
Mais ah, attends, j'ai pas dit que le mien ne l'était pas.
Tu es une sorte de jeune en centre de formation par rapport à Messi, ça fait pas la différence entre toi et moi. Depuis que tu m'as pris ma place, en plus t'as pris mon salaire, quoi.
Alors ça, tu sais quoi? J'ai demandé, mais ça m'a été refusé sur le champ. Une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, est venu à Paris pour prendre de l'argent. Lui, ça s'appelait être député. David Douillet, salut David.
Bah, Léo, tu prends pas grand-chose, je peux te dire.
Ouais, mais tu... Vraiment. Et tu le prends à vie quand même, non? T'as toujours ton garde du corps?
Non, mais t'es fou, c'est des conneries, ça.
Ah, c'est des bêtises.
Est-ce que David Douillet a besoin de garde du corps?
Non, c'est vrai qu'il a besoin
de garde du corps de lui-même, non? Sans problème.
Tu pourrais devenir garde du corps un jour où je te retrouve au chômage.
Mais un homme comme ça ne peut jamais être au chômage. Salut David, ça va?
Ça va et vous?
Écoute, très bien, on est très heureux de te retrouver une nouvelle fois ce week-end. Une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, a toujours été qualifié de précoce. Stephen Brun, salut Stephen.
Salut JC, salut tout le monde.
De précoce. Pourquoi? Je comprends pas.
Moi non plus, je comprends pas. Ouais. Enfin, moi, j'écris pas mes vannes, ouais. Je comprends. Donc moi non plus, j'ai pas compris. Ça va toi?
Ouais, super.
Okay. Trop tôt. À chaque fois que je te pose la question, je suis désolé. Je
dans reviens... 5 minutes, ça ira mieux.
Non, je reviens dans 20 minutes, mon cher Stephen. Toujours aussi très heureux d'être avec toi. Et puis une grande gueule qui, comme Kylian Mbappé, on ne sait jamais s'il sera là la saison prochaine. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC. Ouais, pas mal. C'est vrai que j'ai beaucoup Simon. De très demandé. Peut-être que je vais effectivement enfin quitter la capitale. Je ne sais pas. C'est pas. On sort en juin.
D'ailleurs, parfois, on sait jamais s'il sera là ce matin, parce que même son badge ne marche pas.
Ouais, ça, c'est la bonne vanne de la boutique ce matin, effectivement, bloqué à l'entrée. Mais j'ai été rassuré parce que l'immense Stephen Brun a été bloqué également à l'entrée. Ouais.
Moi, je crois que c'est parce que je suis viré, je crois.
Ouais, posez-vous
généralement,
les bonnes questions.
Pas signe, en effet.
Posez-vous les bonnes questions, les copains. Allez, on va débuter cette émission avec citation de Frédéric Becbédé qui a dit un jour, l'euro a été inventé pour rendre les salaires des riches 6 fois moins indécents.
La une des grandes gueules du sport.
Avec 6 millions d'euros brut par mois, sans les primes, l'attaquant du Paris Saint-Germain a vu son salaire quasiment tripler.
Ça, c'est une journée au boulot, ça!
Juste avec son salaire et la prime à la signature, Kylian Mbappé va toucher environ 60 millions nets.
Combien?
Avant tout, c'est un kiff. Je comprends pas, mais j'accepte.
Il faut que les revenus des grands patrons soient limités.
Je ne veux pas m'empêcher de me mettre une barrière. Si j'arrive là, c'est bon, c'est mon max. Non, j'essaye de pousser mes limites et je vois jusqu'où ça me mène.
Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot.
Alors, oui, pour
300 000 euros.
Ça démarre fort sur cette émission.
Je sais même pas qui t'es en train d'imiter.
C'est incroyable.
Elle était bien, non?
Ouais, c'est Jacques Chirac qui présente qui veut gagner des millions.
Écoutez.
Non, ça n'a rien à voir. Jacques Chirac, je sais pas bien le faire.
Mais pourquoi?
C'est qui?
Alors, pour 300 000 euros,
c'est
pas mal. C'est pas si mal, non?
Jean-Pierre Foucault. C'est pas dingue, on dirait Gilbert.
Attendez, avec la musique de Qui veut gagner des millions, personne n'avait reconnu.
Bah, si, quand même. Vas-y, fais toute l'émission comme ça.
Tu veux?
Ouais.
Sinon, toi, à chaque fois, tu peux me demander une imitation, je peux te la faire.
Ok, très bien. Non, okay. À tout moment, ça vient dans Bourville.
Ah bah, mon million. Ah bah, il est où mon million? Tu veux François Mitterrand?
Oui.
Bachille.
Catastrophe. Cette émission part dans les tréfonds, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il va quand même falloir se poser la question du remplacement de JC Drouet.
Tu me dis que c'est sûr. Je suis pas content aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on appelle un marronnier dans le métier. Un sujet, un débat qui revient inlassablement tous les ans. Le journal L'Équipe a donc sorti cette semaine son marronnier sur les salaires des joueurs en Ligue 1. Évidemment, les Parisiens trustent les 10 premiers. Première place, évidemment, le trio Mbappé, Neymar, Messi occupe le podium. Mais ce qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est le salaire astronomique du Français. 6 millions d'euros bruts par mois, quasiment deux fois plus que Neymar et Messi. Le champion du monde 2018 est désormais l'un des sportifs les mieux payés au monde. La musique qui fout les jetons.
Et cette question?
Le salaire affiché, s'il y a un côté dérangeant pour vous, oui ou non? Stéphane Brun?
Non.
Christophe Cessieux.
Oui.
Simon Dutin.
Moins dérangeant que tes imitations.
Mais dérangeant quand même.
Non, pas dérangeant.
Pas dérangeant. David Douillet.
Non, c'est logique.
Ok, c'est logique. Stéphane Brun, tu commences sur ce débat. Ce salaire vous dérange-t-il? Oui, non. On en a pas mal parlé cette semaine.
Oui, mais oui. Écoute,
on y revient cette semaine.
Moi, ça me dérange pas parce que je suis biberonné à la culture américaine où on affiche ses salaires et qu'en NBA, les salaires sont mirobolants aussi. Et que Kylian Mbappé est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au monde. Et que, à un moment donné, ça se paye. Le talent, la rareté d'un joueur comme ça se paye. Et puis, je me dis que, alors c'est une économie qui est étrange puisque c'est du mécénat au Paris Saint-Germain, mais je me dis que s'il file cet argent-là un joueur et un employé, puisque Kylian Mbappé est quand même employé du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils doivent s'y retrouver. Donc moi je ne suis pas choqué par ces montants-là, et on en reviendra peut-être un peu plus tard. Je suis choqué par d'autres montants de joueurs de cet effectif-là, mais aujourd'hui quand tu es le meilleur joueur au monde dans ton sport, et je trouve que c'est une fierté aujourd'hui d'avoir un Français qui est le sportif le mieux rémunéré dans le monde entier, devant des Stephen Curry, devant des LeBron James, devant des superstars mondiales. Donc soyons fiers d'avoir un Français qui truste ce classement-là. Donc bravo Kylian Mbappé, je suis pas jaloux, tu l'as mérité mon grand, et profite bien de ton argent.
Ok, la fierté dérangeant mérité, pour Christophe Cessieux.
Mérité, comment un être humain aujourd'hui mérite de gagner 6 millions d'euros par mois? C'est-à-dire que
c'est unique.
C'est 3500 fois plus qu'un smicard. 3500 fois plus. Donc il faut 3500 êtres humains là que tu rajoutes, donc il rentre pas dans le studio pour avoir le salaire de Kylian.
Sérieusement,
donc
vous
êtes des libéraux bien pensants évidemment que des gens d'exception puissent gagner 6 millions d'euros par mois. Est-ce que vous avez fait le calcul de savoir ce que ça représente? Combien d'années il faudrait que tu travailles?
Mais nous on n'est pas jaloux, on n'est pas là à se projeter à faire les calculs.
Mais c'est pas de la jalousie, moi je me plains pas de mon salaire. Tout va bien pour moi. Mais je trouve que on est dans un système. Oui, quelque part. On est dans un système. Comment tu veux les gens qui aujourd'hui sont en grève ou qui sont dans la misère, quand ils voient moi. Je suis pas jaloux, je m'en fous qu'ils gagnent ça. Moi, ça me dérange pas.
Bah, ça te dérange pas, c'est la question.
Mais
ça te dérange ou pas?
Ça me dérange.
Sans déconner.
Quoi?
Des magos. Tu fais du gros rouge qui tâche. Tu compares des trucs incomparables. Enfin, franchement.
C'est un philosophe, ça. Gros rouge qui tâche, c'est un philosophe indien.
Mais c'est ridicule, évidemment.
C'est ridicule.
Mais vous êtes tous des libéraux, bien sûr, tout va bien.
Mais non, mais ça n'a rien à voir.
T'as été député de droite, donc évidemment, tu vas pas.
Mais c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Logique. Non, mais arrête de faire des. C'est idiot, ce que tu dis, sincèrement. Et moi, je peux te dire que ton raisonnement, est ridicule. C'est un homme qui génère aussi beaucoup. C'est un modèle économique à lui tout seul. Voilà, c'est tout. Il est normal que les principaux acteurs d'un modèle économique énorme en tirent les fruits. Ce serait anormal que Kylian Mbappé, aujourd'hui, par rapport à l'économie du PSG, du foot, etc., etc., soit des smicards. Réfléchis deux secondes, c'est impossible.
Mais j'ai jamais dit qu'il fallait qu'il soit des smicards, David. Mais quand tu regardes le truc, il est à 6 millions, il gagne le double de Neymar, de Messi, il gagne 6 fois plus que Verratti.
C'est la loi de l'offre et de la demande qui se te dis, c'est comme ça.
C'est la loi du libéralisme le plus sauvage. Donc d'accord, ok, vous êtes bien dans vos chaussettes avec ce genre de truc, eh ben il y a pas de souci, mais on va discuter ensemble.
On a bien noté que le communisme fonctionnait, ça c'est sûr.
Oui, mais bien sûr, parce que tu crois que j'ai envie de mettre dans le goudron et les plumes et d'aller le piller, mais évidemment que non. Je dis juste que moi personnellement, quand je regarde ce truc et qu'on l'affiche en gros titre 6 millions d'euros, moi ça me dérange, voilà, c'est okay, tout. Bah vous, ça me dérange pas. Vous êtes bien dans vos.
Parce que c'est pas notre culture. Alors, la culture française fait que c'est indécent de parler d'argent. Alors qu'aux États-Unis, c'est une fierté. Ouais. Les mecs, ils sont fiers des gens qui ont réussi et de leur réussite. Oui, c'est la jalousie permanente.
Et dans le système, capital, le système américain, évidemment. Toi aussi, les États-Unis, tu vois que ça, il y a que ça qui compte dans le monde pour toi. C'est le modèle absolu. C'est aller gagner des milliards dans des salles de basket. Eh ben, écoute, on n'est pas dans le même modèle, tout. Il n'y a aucune jalousie de ma part.
On peut quand même se dire bonjour le matin.
Je suis très heureux. Je suis très heureux de ma vie et de ce gars. C'est pas du tout de la jalousie. C'est par rapport aux autres, quoi. C'est hallucinant. Non, c'est pas seulement le foot. C'est aussi tous ces milliardaires qui gagnent 100 fois plus chaque année ou 10 fois plus chaque année, alors que la misère de l'autre côté se creuse. Je dérape évidemment. Mais c'est n'importe quoi.
Arrête, je suis pas député RPR, arrête tes conneries. Je te signale que je suis plus de droite. Il faut que tu réactualises tes fiches. Voilà, je fais plus de politique.
David.
Moi, j'ai des idées qui sont sociales et je vais pas dire ce que je pense parce que je vais être grossier. Il faut que tu arrêtes ton histoire là, sans déconner. Il faut comparer ce qui est comparable. On est dans le milieu du foot là, sans déconner. Donc le milieu du foot, on compare les gens qui sont dans le milieu du foot. Donc aujourd'hui, la question c'est est-ce que par rapport à l'ensemble des footballeurs de la planète, Mbappé vaut 6 millions d'euros, oui ou non, mais tu nous fais pas une divergence sur le SMIC, le machin, le truc, les milliardaires, les trucs qui... Voilà, c'est n'importe quoi ton discours.
D'accord,
faut rester constructif, faut rester construit, excuse-moi.
Je savais pas que David était député RPA. Moi,
franchement, réactualise tes fiches sur les collègues. Ça fait 7 ans que j'ai arrêté la politique, mec. Ça fait 7 ans que j'ai arrêté la politique, je peux te dire que j'ai plus envie d'en faire, compte tenu de ce que je vois.
On a bien senti le tacle par derrière non maîtrisé de Christophe Cessieux juste pour provoquer l'Assemblée. Simon Dutin, vas-y, entre dans la danse.
Le RPR, c'est les deux pieds décollés même. C'est un vrai 1er avril, quoi. Je suis d'accord et avec Stephen Brun et avec David Douillet, donc ça commence vraiment bien. Qu'est-ce que vous voulez, mon cher Christophe? C'est le monstre qu'on a créé, voilà, c'est la bulle.
Si t'es bien dans le monstre.
Tudor cette semaine dans l'équipe, et pourtant il n'a pas été malheureux, notre ami à la Juve pendant 9 ans durant sa carrière. Il regrette effectivement qu'il y ait trop de pognon, c'est une bulle, effectivement, le foot est devenu une bulle, mais Stephen le rappelait, c'est question d'angle d'attaque, quoi. Aux États-Unis, effectivement, quand il y a un mec qui décroche le jackpot et qui décroche ce qu'ils appellent des contrats max, dans les qui sont soumis à certaines conditions d'éligibilité, ça fait la fierté des médias, des fans, et effectivement, et quasiment du pays, parce que c'est le signe d'une économie qui fonctionne. L'économie du foot, est-ce qu'elle fonctionne? Je ne sais pas. En revanche, effectivement, à partir du moment où il y a des gens prêts à donner ces sommes-là, réjouissons-nous qu'on les donne à celui qui, effectivement, à l'heure actuelle, semble le mériter le plus. Pour compléter ce que disait Stephen, moi, dans le classement des footballeurs les mieux payés de la planète, je suis plus choqué par la 4e place d'Eden Hazard ou la 9e place de David Alaba au Real devant Erling Haaland. Bon, ça devrait pas durer non plus des plombes.
Il joue David Alaba,
mais il joue au Real Madrid également.
Ah, voilà. Là-bas.
Oui, oh, excellent.
Il avait préparé 20 ans de temps, magnifique.
Exactement. Avant, il jouait avec Gareth Bale, il jouait à la Babal, voilà, sur le côté gauche.
très bien.
Il y a effectivement, pour ceux que ça intéresse, les bonus de la saison de NFL qui ont été révélés hier. Il y a des mecs qui ont fait une saison moisie, qui ont joué 3 matchs, qui prennent
30 millions de dollars. Et on est ravis de publier ces classements. Je pense à Matthew Stafford, hein, pour les spécialistes, le quarterback des Los Angeles Rams.
Non, mais si c'est pour nous dire qu'aux États-Unis, on affiche, on l'a compris avec Stephen. C'est juste que, est-ce que vous, ça, quand vous lisez ça, ça vous dérange?
D'accord, donc quand on est d'accord, en fait, c'est la primature qui donne les arguments. Non, mais moi, si je suis d'accord, il faut que je change d'argument. D'accord.
T'as pas compris ce que j'ai dit.
Vas-y, je vous laisse. Alors, au RPR, bon, alors, les mecs, ils sont gavés. Non, justement, je suis plus choqué si je voulais aller me vautrer dans le populisme de mon confrère Cessieux, là. Je suis plus choqué par les bonus, les parachutes dorés, les salaires révélés, le PDG de Total qui se goinfre alors que, bon, il fout pas grand chose quand même,
il augmente le prix à la pompe.
Il relève les compteurs, ouais, voilà. Mais, effectivement, bon, il n'y a rien qui me choque, malheureusement. Enfin, à partir du moment où on accepte où on regarde tous du foot, où on regarde la Ligue des Champions, qui augmente ses droits chaque année, où on achète les maillots de Mbappé, faut voir les gamins. Moi, j'ai plein d'amis qui ont des enfants de moins de 10 ans. Tu leur parles de Mbappé, ils ont les yeux qui brillent.
Ah oui, lui fait rêver, et puis comme Messi, tu vois. Voilà, Messi fait rêver, mais Mbappé fait rêver.
On en parlera tout à l'heure. David Douillet.
Juste pour établir un petit peu de vérité, il faut quand même dire que l'État s'y retrouve, messieurs, puisqu'on veut parler de
politique. David, je voulais pas y aller là-dessus, mais vas-y.
Non, mais bien sûr que l'État s'y retrouve. On est à 6 millions bruts. Alors, c'est un calcul à la grosse, hein, mais je pense que dans, grosso modo, avec les taxes, les impositions, etc., etc., il doit lui rester à peu près 2,6 millions dans la poche. Tout le reste, c'est l'État qui l'empoche, hein. Donc, plus le salaire de Mbappé est haut, et plus l'État s'enrichit. Voilà, c'est ça aussi, la vérité.
Okay. Christophe, c'est quand même mieux d'avoir Kylian Mbappé chez nous. Et je comprends maintenant pourquoi les politiques, à un moment donné, s'étaient un peu mêlés l'éventuel transfert de Mbappé en disant, faut que tu restes chez nous. Parce que c'est quand même plus sympa que Kylian Mbappé verse des impôts en France plutôt qu'il parte à Madrid et compagnie. C'est quand même plus sympa, ça. Mais bien. Ça, t'as oublié de le
préciser.
Grâce
à toi, c'est grâce à lui que j'aurai une retraite un jour.
Et ben alors.
Merci Kylian. Merci surtout au Qatar.
C'est grâce au sport que t'as eu un job, en tout cas.
Ouais, ben toi aussi un peu, non?
Ben oui, mais moi je le décris pas. Hein. Toi, tu craches dans la soupe.
Je ne crache pas dans la soupe du sport, je crache dans la soupe du système. Mais David, voilà, moi je trouve que ce qui me dérange encore plus, c'est que vous trouviez même pas ça dérangeant.
C'est pas ça, Christophe.
Ça ne vous fait pas.
Mais on dirait que tu tombes de l'échelle, ça fait des années que par rapport.
Mais évidemment, on le sait. Et alors, parce que c'est comme ça, on doit accepter qu'on
puisse. Tu veux faire quoi, Christophe?
Et chaque année, les disparités se creuse chaque année, les disparités.
Donc,
se l'été creusent.
Dernier, mais Christophe, t'es lucide, il y a des droits de millions, il y a des droits. Les mecs qui, je sais pas, qui viennent réparer l'électricité chez toi, qui ramassent les poubelles ou les infirmières, t'as vu ce qu'ils gagnent et qu'ils triment, donc t'es mignon, coco, si tu veux rester, on te file quoi? 10 fois le SMIC, mais c'est tout. C'est invendable. Les mecs, ils sont dans une bulle, effectivement, ils ont pas les pieds sur la planète.
C'est toi aussi, tu es dans la bulle, puisque rien
de on y contribue tous. À ce moment-là, tu arrêtes de commenter les matchs sur RMC, tu dis, ah bah non, moi je cautionne plus. Je suis journaliste sportif, mais moi la Ligue 1, il y a trop de pognon en Ligue 1 et moi je vends pas ça à l'antenne.
C'est pour ça que je ne participe pas à la plupart des émissions de foot. Moi
Christophe, hein. En 68, Georges Best, il gagnait 75 fois le salaire minimum en 1968.
Mais t'es à 3500 fois. T'es passé de 75 à 3500.
Parce que l'économie a grandi aussi.
Il y a une inflation quand même.
Il y a une inflation, mais comme dans la vie de tous les jours, il y a une inflation.
Mais il y a une inflation des gens qui regardent aussi, parce que cette économie-là, au départ, elle est générée par des gens qui regardent. Donc plus il y a des gens qui regardent, plus les droits sont importants. Plus les droits sont importants, plus il y a d'équipements qui sont vendus, des postes de publicité, etc., etc. Et l'économie, elle grossit. Voilà, mais faut pas être.
Je sais pas si on est dans l'économie réelle avec les salaires de Mbappé. Je suis pas sûr que ce que rapporte, évidemment, que ça rapporte de l'argent, les droits télé, la vente de maillots et tout ça. Mais je pense pas qu'on soit dans l'économie réelle. Je pense pas qu'il fait vraiment gagner.
Non, mais je te vois venir parce que tu parles du Qatar. Mais s'il y a un autre club,
ah oui, il y en a pas d'autres.
Il y a partie au Qatar qui est capable de l'acheter, c'est que il y a une réelle économie.
On va finir sur le débat.
Vas-y, 1, 2, 3, 4, 5, les 10 premiers joueurs, les mieux payés de France, sont tous issus du Paris Saint-Germain.
J'ai une question pour toi, Christophe. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que tu connais le salaire de Kylian Mbappé,
ton jugement sur le rendu sportif de Mbappé va changer. Est-ce que tu vas être plus exigeant avec lui ou est-ce que
non, mais c'est pas à lui que j'en veux. C'est
non,
pas
non,
à lui.
Non, mais ton, que ton regard va changer sur les performances d'Mbappé en disant ah, bah, avec ce montant-là, t'as intérêt à être bon.
C'est un réflexe que tu peux avoir quand tu connais la façon dont sont payés les gens. Effectivement, non. Si c'était c'est plutôt les 3 300 000 euros de Messi qui marche pendant 85 minutes sur un terrain. Là, effectivement, il est trop payé pour son salaire.
Parfait, ce sera à partir de 11h. Messi fait-il encore rêver? Ce sera notre débat. Oui, vraiment rapidement.
C'est une question. C'est qui prend le plus cher après moi dans les grandes gueules du sport? J'ai pas eu le classement.
Le classement?
Le mieux payé, la grande gueule la mieux payée après moi.
Tu veux dire par rapport au classement, celui qui est en dessous de toi ou celui qui est au-dessus?
Celui qui est juste en dessous de moi.
Celui qui est en dessous, il n'y en a pas.
Et ça, c'est très tabou.
Et là, Christophe, c'est sûr, on t'entend pas là-dessus sur cette injustice.
On va aller voir notre ami Alban Alzaïs, qui est à la fois notre syndicaliste, et on va tout faire pour
parler. Ça, c'est tabou dans les sociétés aujourd'hui. Moi aussi, un jour, je jouais à Nancy et tout le monde disait parler d'argent. Je dis, ah, vous voulez parler d'argent? On recevait les fiches de paye. J'ai dit, ok, tout le monde va poser sa fiche de paye maintenant sur le truc.
Et c'est impossible.
Bah, il y en a deux qui l'ont fait.
Ouais. Bah ouais, c'est ça.
Ah ouais.
Et t'étais dedans quand même ou pas?
Moi, je l'ai donné. Moi, j'ai pas de problème.
Mais je sais, on en a déjà parlé tout ça, mais c'est compliqué. Par exemple, nous, là, dans la rédac, on va filer les fiches de paye, ça risque d'être compliqué.
Moi, ça me dérange pas.
Bah, moi non plus. Exactement. Voilà. J'en ai déjà parlé avec Christophe.
Parce que vous avez des fiches de milliardaires, c'est pour ça.
Ah oui, c'est ça, au moins. pardon, mon cher Christophe, qui gagne vraiment chichement sa vie. 9h28, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. La punchline sur Arthur Fils, le petit prodige présenté comme tel, en tout cas du tennis français, il annonce la couleur. Mais alors, velu, hein. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32, on est de retour avec les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. J'aime bien comme ça parler d'argent de bon matin. Ça excite tout de suite mes GG. On est toujours avec David Douillet, Christophe Cessieux, Simon Dutin et Stephen Brun dans une dizaine de minutes, le zapping des GG. Avec notamment l'Olympique de Marseille qui a encore perdu des points à domicile. C'était hier soir. On en reparlera donc dans 10 minutes. Restez bien avec nous. Le tennis français tient-il sa nouvelle star? Depuis le début de la saison, Arthur Fils s'est fait un nom. Ses principaux faits d'armes, demi-finale à Montpellier, demi-finale à Marseille, en battant notamment en quart de finale Stan Wawrinka, le voilà désormais aux portes du top 100 à 18 ans. Mais le français voit loin dans une interview donnée à Eurosport. Beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup plus loin. Comme jamais un français n'avait vu aussi loin. C'est la punchline des GG rapportée par notre copine Siri. La rapporteuse.
RMC, la punchline GG.
À 23 ans, j'aimerais bien déjà avoir un grand chelem à mon palmarès, ce serait bien. Et puis être en compétition pour la place de numéro 1 mondial. Il ne faut pas se mettre de limites. Quand on se met une limite, ça peut être dur de l'atteindre. Quand on se dit, je vais essayer d'être top 10, ça veut dire qu'on ne va pas essayer d'être numéro 1 mondial. Il faut aller chercher le plus haut possible. Il faut dire ce que l'on pense pour qu'on puisse essayer d'y arriver. Ça fait partie de ma mentalité.
La phrase choc d'Arthur Fils. Dans 5 ans donc, un grand chelem. Aller chercher la place de numéro 1 mondial. Est-ce une sortie courageuse ou dangereuse, les GG? Christophe Cessieux.
Je vais encore me mettre tout le monde à dos. Je pense que c'est dangereux.
Ok, on va voir si tu es tout seul dans ce cas. Stephen Brun, l'American.
Well, American, you know, it's very courageous.
Sorry, I don't understand. Yeah, man, no. David Douillet.
Ouais, je trouve ça génial. Génial comme un gamin pense.
Ça, c'est les propos du RPR, ça.
Ouais. Tout est RPR maintenant.
Un ex.
Simon Dutin. Oh.
Je vais embrasser Denis Charvet, je vais te dire les deux, mon capitaine.
Les deux, mon capitaine. Oh là là. Alors, on va commencer avec le dangereux de notre ami.
Je vais me faire.
Mais vas-y, Christophe, t'as pas à dire que c'est dangereux.
Que le garçon soit ambitieux, ça pose vraiment pas de problème. C'est même inespéré, vu l'état du tennis français depuis quelques années. Ce qui me gêne, c'est surtout, et qui risque surtout de le gêner, lui, à l'avenir, c'est de le crier haut et fort, surtout dans notre pays. On le sait, en France, on n'a jamais aimé les gens un peu prétentieux, les gars qui en vendent d'avoir décroché de grands titres se voient déjà comme des champions. Avant de parler, il faut prouver. Et même si Arthur est considéré comme l'un des tout meilleurs de sa génération, il n'a encore rien gagné chez les grands. Donc plutôt que de parler de remporter les grands chelems et prétendre à la place numéro 1 mondial, c'est quand même pas rien, hein. Il annonce, voilà, je vais être numéro 1 mondial pour l'instant. Je pense qu'il ferait mieux de se taire et de travailler à le devenir. Ce serait encore plus chouette qu'il arrive comme ça, petit à petit, qu'il gravisse des échelons et qu'il devienne numéro mondial et qui gagne Roland Garros, ce serait merveilleux. Mais là, maintenant, le gars, s'il se plante deux, trois fois d'affilée aux qualifications d'un tournoi, qu'est-ce qu'on va dire de lui? Il va dire quoi, Eric Salio, quand il va aller le rencontrer? Alors, Arthur, cette place de numéro un mondial, ça en est où? Ça va être difficile à vivre. Évidemment, s'il est le meilleur, si c'est un Federer ou un Nadal en herbe, bah il aura aucun souci à l'assumer tout ça. Moi, ça me rappelle un jour Marc Lièvremont qui en conférence de presse avant la Coupe du Monde en 2011 disait. On va être champion du monde. Je vais être champion du monde. Et l'équipe de France faisait un parcours catastrophique. Et à chaque fois en conférence de presse, il y avait un journaliste qui a ensuite travaillé chez nous qui disait.
C'était qui?
Mathieu Le Chevalier.
Très bien.
Qui venait lui dire, on avait perdu contre les Tonga, je crois. Et il vient lui dire en conférence de presse. Oui, c'était
magnifique. Vas-y, continue.
Il vient lui dire en conférence de presse. Alors, ce titre de champion du monde, Marc, tu y crois encore? Et l'autre, au bout d'un moment, excédé, il dit, tu m'emmerdes avec ta question. Tu te mets en danger, tu te mets en difficulté en ayant des prétentions comme ça.
Ok, David Douillet, c'est génial.
C'est génial. On en manque des jeunes comme ça qui rêvent. Parce que les grands se construisent à travers le rêve. Et plus le rêve est élevé, et plus ils iront haut. Moi, je vous racontais une histoire avec mon meilleur ami. On avait 16 ans, même catégorie de poids, même âge. On est tous les deux à l'INSEP, on en baffe tous les jours. Et discussion de fin de journée, on se dit, mais qu'est-ce que toi, t'ambitionnes quoi? On est dans la même catégorie, hein. On est les deux pires ennemis sur le tatami et les deux meilleurs amis parce qu'on est frères d'armes et on en bave. Et lui me dit, moi, si un jour je suis champion de France, c'est génial. On est au même niveau, hein. Et il me dit, et toi? Je dis, mais moi, je vais être champion du monde. Et lui est devenu champion de France et moi, j'ai réussi mon rêve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où même gamin, tu te limites en disant... comme il l'a expliqué, le petit Arthur. Moi, je vais être dans le top 10. Bah ouais, tu seras peut-être dans le top 10, mais tu seras jamais numéro 1. Si t'ambitionnes pas le plus haut, t'auras peu de chances d'y arriver. En revanche, même si t'y arrives pas, t'auras toujours été plus haut que ce que tu ambitionnes. C'est ça le truc.
Mais c'est très intéressant. Et pour aller un peu plus loin dans ton anecdote, c'est sûr que quand on t'a demandé, et même tes entraîneurs, hein, quand t'as dit, moi, je vais être champion du monde, on t'a regardé un petit peu avec des gros yeux en disant, oh là, mais on dit pas ça ici. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est mal poli. Voilà. Exactement. Et c'est très intéressant que tu puisses nous faire partager ça. Les deux, mon capitaine, avec Simon Dutin. Courageux.
Oui, parce que, on a commencé à être habitués, effectivement. Les ont déjà fleuri le Kylian Mbappé du tennis, effectivement. La phrase légendaire de Kylian Mbappé, moi, tu me parles pas d'âge, tu vois, si t'es pas content, c'est triplé. Il avait 17 ans, le gars, il t'annonçait ça avec un aplomb, et effectivement, force est de constater que ça lui a rendu service. Donc, j'ai lu des interviews, il dit que c'est ses parents qui l'ont éduqué comme ça, croire en lui, effectivement. Alors, dans le monde du tennis, pour avoir joué un peu en club, les mecs qui sont un peu trop sûrs d'eux, qui trincent 0-0 en interclub, t'as envie de les tabasser, hein, quand même, et c'est un peu agaçant. Mais effectivement, il s'est construit comme ça. Il a l'habitude de gagner. Avant de gagner un grand chelem senior, il faudrait quand même gagner les grands chelems en junior, parce qu'il a un concurrent français dont on parle un petit peu moins, mais le petit Van Hache, qui l'a battu en finale de Roland Junior en 2021. Moi, je pense qu'effectivement, un peu à la manière de ce que nous dit David, quoi, tu vises les étoiles, t'espères atteindre le ciel en faisant comme ça. Je sais pas où le plafond. Ouais, c'est beau, hein, t'as vu. Ouais. Je vais le déposer.
Quelqu'un
a dû nous sortir. Il y a des petites choses qui m'inquiètent quand même un peu dans son discours. Alors, il nous dit qu'il s'inspire beaucoup de ceux qu'on a brandés comme les quatre mousquetaires, tu vois, genre mon fils, Gasquet, Tsonga, machin. Bon,
enfin, Simon. S'il fait la carrière des quatre mousquetaires, c'est une belle carrière. Hein,
ouais, alors, je sais pas où t'as trouvé le grand chelem dans leur
d'accord,
carrière.
Mais, il dit que si tu vises très haut et que tu n'y arrives pas, si tu viens nous expliquer. Enfin, s'il est dixième mondial.
Il faudrait quand même lui rappeler, parce qu'évidemment, on est tous, il y a ce tropisme là de trouver là le tennisman français qui va enfin soulever un grand chelem. Alcaraz, Rouneux, ils ont un an de plus que notre ami et ils ont accompli quand même beaucoup plus de choses que lui sur le circuit. Donc attention à ne pas se brûler les ailes. Il prend effectivement de gros risques avec ce genre de déclaration, parce que on lui rappellera constamment désormais.
Pièce à conviction, ouais, et après je donne la main à Stephen Brun. Gaël, mon fils, en 2018, souvenez-vous ce qu'il disait.
Roland, c'est un de mes gros objectifs. Bien sûr, parce que j'ai envie de gagner Roland, mais en fait, je pense que c'est plus global. J'ai envie de gagner un grand chelem, tout simplement, tu vois. J'ai envie de gagner un grand chelem. Roland, c'est celui que j'ai envie de gagner le plus, tu vois. Mais je me contente pas de me dire, tu vois, je vais arriver pour gagner Roland.
Et on trouvait ça même génial et même encore aujourd'hui, mais à l'époque, mais ça lui est revenu un petit peu comme un boomerang, cette phrase. Hein.
Bah oui, oui. Et après, maintenant, il est moqué systématiquement. Mais qui aujourd'hui est capable de me dire que mon fils a pas fait une belle carrière au tennis? Enfin, le mec, il était top 10, il sur tous les grands chelems, il a brillé. Enfin, ça reste une belle carrière, Gaël, mon fils. Mais on en revient toujours au même problème, français en fait, du français qui affiche ses ambitions et qu'on a tout de suite envie de défoncer. Et c'est à l'image de ce qu'ont vécu Cyril Gane et Tony Yoka, qui ont clamé leur ambition de champion du monde, et ils ont perdu et on les a détruits. Voilà, le petit-fils, il a raison de se tracer un chemin, une ligne directrice, que quand t'es jeune, quand t'as 19 ans, t'as raison de te fixer des objectifs. C'est pas pour autant que tu vas les réussir. Maintenant, s'il fait quart de finale de Grand Chelem et qu'il est 15e mondial, moi j'ai envie de lui dire bravo. Le problème, c'est que nous, on leur met une pression. Dans deux sports, on met des pressions. Au tennis, parce que ça fait un bail qu'on n'a pas gagné un tournoi, et au cyclisme, parce qu'on attend un Français vainqueur du Tour de France depuis combien de temps?
Bernard Hinault, 85.
Depuis Bernard Hinault, 85. Donc aujourd'hui, dès qu'il y a un mec qui nous donne un petit peu, nous fait saliver en disant ah ça y est, nous aussi on est tout fou parce qu'on a envie de voir ça. Allez, 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 il faut
qu'il y aille
parce
qu'on a un manque. Ouais, on n'en est pas encore dans cette attente.
Non, on est pas,
pour le coup, on ne l'était pas là avant cette phrase.
Non, on l'était pas. Après, il a fait quelques
matchs référence. Oui, mais on n'était pas à dire c'est bon, il va gagner un grand chelem.
Non, pas du tout. Mais moi j'aime ça parce que la génération d'aujourd'hui, on en a beaucoup parlé d'ailleurs au dernier rassemblement de l'équipe de France de foot, en disant que cette génération, elle avait confiance en elle, elle était décomplexée. Dès que tu leur donnais des responsabilités, ils les prenaient, à l'image de Kefren Thuram et compagnie. Et la génération d'aujourd'hui, et là je reviens à Steve Brown, vous pouvez me parler anglais, elle est élevée à la culture américaine, où t'as confiance en toi, où personne n'est meilleur que toi. Et on le voit aujourd'hui avec des Wembanyama, avec à l'époque des Kylian Mbappé, avec des Léon Marchand qui pour lui est imbibé de la culture américaine puisqu'il est à la fac aux États-Unis. Et moi ce que je souhaite, c'est que le jour où nous, médias, on soutiendra leur démarche et les ambitions, et ben je pense que nous aussi, journalistes et consultants, on aura fait un temps d'avance.
Thibaut Pinot, excellent, Julien Alaphilippe avaient dit il y a 10 ans, je vais gagner le Tour de France, je vais être numéro 1 mondial.
Ils n'ont pas eu de déclats comme quoi?
Non, justement, on veut le gagner.
Bah,
ils disent oui, j'aimerais bien un jour le gagner, mais je ne le gagnerai jamais. C'est Alaphilippe qui le disait. Il l'a toujours dit. Aujourd'hui, si on se retournait sur des déclarations qu'ils auraient faites, tout le monde se foutrait de leur gueule, évidemment.
Qu'est-ce que ça fait? On s'en fout, c'est pas grave. Moi, je préfère avoir 20 personnes dans 20 sports différents qui veulent être numéro un mondial et qui le seront peut-être jamais, mais qui en tout cas auront fait le maximum de ce qu'ils pourront faire.
Tu le dis pas que tu fais pas le maximum de ce que tu peux faire, David.
Mais si, si tu te mets, en fait, quand tu as le courage, parce qu'on parlait de si t'es courage ou pas, moi je trouve que c'est extrêmement courageux de dire ça. Parce que tu prends tes responsabilités. Quand un gamin dit ça, il se dit voilà, moi je passe un contrat. Je passe un contrat et je le montre à tout le monde. Tu vois, on parlait de fiche de paye tout à l'heure qu'on montrait à tout le monde. Lui, il passe un contrat moral avec lui-même et il le montre et il l'affiche. C'est extrêmement courageux. Parce que, comme tu le dis, il va peut-être en prendre plein la tête. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire que il espère que ça va le pousser et au moins il affiche les choses. Je trouve ça extrêmement sain, en fait.
Sans faire mauvais esprit en 5 secondes, à part des gens comme Stephen qui s'intéressent énormément au tennis, il y a quand même, le grand public ne sait pas encore qui c'est Arthur Fils. Donc, faut y aller mollo quand même.
Il faut y aller mollo. On salue pour le coup sa prise de décision et c'est pour ça qu'on avait envie d'en parler dans cette émission. Ça fait aussi d'en parler, avancer les mentalités. En tout cas, je l'espère. C'est aussi le principe d'une émission et de parler aussi aux auditeurs en disant ce gamin, il a 18 ans. On espère qu'il ira très très haut. Mais la seule question à se poser, c'est maintenant lui et sa capacité à gérer cette phrase. Et la pression à avoir sur ses épaules. Est-ce que son prochain tournoi, il va se dire j'ai fait une sortie.
Il est blessé.
Il faut que je joue. Le prochain tournoi qu'il fera, j'ai fait une sortie. Maintenant, il faut que je montre que je peux être en adéquation avec cette sortie. C'est juste
Question qu'on se pose. Et qu'il fasse en sorte aussi.
Mais on a très envie qu'il réussisse.
Au niveau du travail, au niveau de l'éthique et tout ça, d'être en relation avec ses ambitions. Mais il y a peut-être une émulation qui peut se créer. Et Simon l'a dit avec Lucas Vornage, qui sont deux garçons de la même génération et qui se tirent un peu la bourre parce que Arthur Fils a fait des bons résultats. Il a pris le devant. Lucas Vornage ensuite enchaîner les bons résultats, ils sont quasiment. Donc c'est bien aussi d'avoir un autre garçon de sa génération pour éventuellement se tirer vers le haut.
Une émulation, ou alors comme disait un célèbre footballeur, une émulsion. Voilà. Ça c'est évidemment en cuisine, pour les amoureux de la table, comme David, j'ai entendu sourire.
Ça fait longtemps que t'as pas fait l'imitation. Tu peux nous imiter Patrick Sabatier?
9h45, on se retrouve dans quelques
instants. Beaucoup plus dur.
Ah là là. Ah,
c'est une brave joke là. Nos éditeurs ne peuvent pas comprendre.
Non, mais.
Leur explique.
Mais on embrasse en tout cas.
On passe un avis de recherche.
On embrasse toutes les stars, évidemment, dans cette émission et on embrasse très fort Patrick Sabatier. 9h45, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Le zapping des GG avec notamment l'Olympique de Marseille ou encore Tony Parker. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, on est de retour dans les grandes gueules du sport. À partir de 10h, nous allons vous parler de Formule 1. Lewis Hamilton qui a décroché la troisième position, mais surtout Max Verstappen qui a décroché la pole. C'était ce matin, tôt ce matin en Australie. Red Bull a-t-il déjà plié la saison? Ce sera notre question et les GG ne sont pas d'accord. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Alors mes GG, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. L'OM qui perd encore des points à domicile, c'était hier soir. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
David Douillet.
Ouais, je m'en fous.
Ok, Stephen Brun.
Je m'en fous pas.
Ok, c'est donc pour vous deux, Simon et Stephen. L'OM a donc concédé le nul contre Montpellier hier soir en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. L'OM reste deuxième, mais attention, en cas de victoire tout à l'heure ce soir face à Rennes, Lens pourrait prendre cette deuxième place. Pour la cinquième fois d'affilée en championnat, l'OM n'a pas réussi à s'imposer dans son stade. Ça fait 2 mois et demi que les joueurs d'Igor Tudor sont à la recherche d'un succès. Début d'explication, ça va peut-être vous faire bondir, par Dimitri Payet.
Oui, forcément déçu parce que c'est pas le résultat qu'on espérait et il nous manquait certainement un peu de rythme, un peu de jus. Sans trouver d'excuses, je pense que on n'a pas eu non plus le choix de préparer ce match dans l'urgence avec des joueurs qui sont arrivés encore hier soir, avant-hier soir. C'était pas la préparation optimale qu'on puisse espérer avant un match aussi important. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on a manqué de rythme, de folie, d'enthousiasme, tout ce qui fait notre jeu et tout ce qui nous fait gagner habituellement.
Alors, il y a un petit souci au niveau du son, c'est pas grave.
C'est pas Dimitri
Payet. Non, c'est pas celui-ci que j'attendais sur la trêve internationale. Dimitri Payet qui dit, je vais vous le citer, on va peut-être le retrouver, qui dit que voilà, il va falloir se poser les bonnes questions sur le calendrier et que à chaque fois, en tout cas, ça fait 2 fois que c'est l'OM qui joue le vendredi soir en retour de trêve internationale. Donc
ça
c'est
pleurniche.
Un déficit pour eux. Allez-y, vous pouvez y aller, Simon Dutin.
Bah, Tudor a sorti un moment un peu la même excuse d'entraîneur après la rencontre. Effectivement, c'est un peu malvenu. Voilà, le calendrier, t'es obligé. Il y a qu'un match le vendredi. Hein, tu te mets à la place du diffuseur. T'es obligé de vendre un peu de rêve. Qui est une grosse équipe. Lyon et Paris s'affrontent dimanche. Donc il y avait pas énormément de choix non plus. Donc non, effectivement, c'est pas la bonne excuse. J'ai été un peu surpris que ce soit Payet d'ailleurs qui vienne s'exprimer. Il a joué un quart d'heure à un moment où effectivement Marseille campait dans le camp adverse. Non, mais plus globalement, en fait, voilà, cette excuse, elle est un peu à mettre sur le compte de la déception légitime, je pense, des Marseillais. Tu l'as répété, ils ont du mal à gagner dans leur stade et ils tombent contre une équipe de Montpellier qui est une des meilleures en Europe depuis que MDZ est arrivé, Michel Derzakarian.
En Europe,
carrément. Ouais, en Europe, ils étaient sur 5 victoires, 1 nul depuis qu'il est arrivé. Ouais. Ils perdent pas, ils sont pénibles à jouer, ils mettent des buts.
Puis ça sent pression.
Effectivement, hier. Ah, écoute, hier Marseille a pas fait un match exceptionnel, mais c'est surtout Montpellier qui a fait un énorme match. Voilà, tant pis pour eux.
Très bien, Steve.
Non. Avec Nice, je crois que Marseille est l'équipe qui a perdu le plus de points dans les équipes du top 10 à domicile. On rappelle que l'année dernière, déjà avec Sampaoli, c'était une équipe qui avait lâché énormément de points au Vélodrome. On pensait qu'ils avaient réglé ce problème-là au début de saison. Après, je sais pas. Je regarde la compo de hier. Je regarde la compo de Tudor. Il y a des choses qui sont surprenantes. Est-ce que c'est parce qu'il y a des mecs qui sont arrivés tard, comme l'expliquait Dimitri Payet,
Chancel Bamba notamment.
Chancel Bamba qui est pas titulaire, qui est peut-être un des meilleurs défenseurs centrales de Ligue 1.
Il avait joué mardi soir avec le Congo.
Donc peut-être qu'il était un peu short. Après tu tentes des choses, tu tentes Vitinha titulaire avec Sanchez derrière. Alors les expérimentations c'est bien, mais là c'est le money time mon grand. Est-ce que c'est le moment de tenter des choses? Tu mets Rongier défenseur.
C'est ce que dit Dimitri Payet. Alexis Sanchez avait joué avec le Chili.
Il est
arrivé à Marseille que mercredi.
Mais il est titulaire quand même Sanchez derrière Vitinha.
Oui, mais ça peut expliquer le manque de forme.
Écoute, si ça explique, est-ce que c'est uniquement ça les causes du match nul hier? Bah très bien, on se réfugie derrière ça. Maintenant, je pense que maintenant Marseille, le problème c'est que Marseille, qui mine de rien regardait quand même en haut pour savoir s'il y avait un truc. Maintenant, ils doivent se préoccuper de Lens qui arrive derrière et qui pour venir à égalité avec l'OM.
JC voulait nous faire un débat ce matin et puis finalement hier soir il a changé d'avis.
Oui, dis-nous tout sur les coulisses.
Faut-il à nouveau parler de la course course au titre pour l'Olympique de Marseille.
Il est attiré.
C'est pas vrai?
Oui, mais si l'OM gagnait, si l'OM gagnait.
On anticipe des débats, Christophe, c'est le principe de notre métier. Oui, évidemment. Oh, je me suis trompé parce qu'ils ont fait match nul.
Ah non, bah, mais
oui.
C'est pas pour te.
Non, non, si, c'était.
Je croyais qu'on n'avait pas le droit de prendre la parole quand on avait.
Oui, t'as raison, David.
C'est juste.
Expulsé 10 minutes. Expulsé 10 minutes, okay. Christophe, c'est
okay,
sûr.
Ok, je quitte.
Non, on reste avec nous. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le CIO qui maintient le flou sur le retour des athlètes russes et biélorusses. On s'en fout pas. Christophe, c'est sûr.
J'ai le droit de parler.
Vas-y, Christophe. T'as préparé ton truc en plus.
Bon.
Non, tu veux pas? Ok, Simon Dutin.
Je passe.
David Douillet.
On s'en fout pas, là.
On s'en fout pas. Stéphane Brun.
On s'en fout pas. Ça me permet de parler si j'ai envie de parler.
Le Comité international olympique, et je sais que Christophe va avoir envie de parler, a réaffirmé ce mardi sa volonté de ne pas discriminer les sportifs russes et biélorusses malgré l'invasion de l'Ukraine. Thomas Barr, le président de l'instance, a confirmé que leur participation sous bannière neutre aux Jeux olympiques de Paris 2024 restait une possibilité, même si le CIO n'a pas encore annoncé de décision pour l'événement à Paris. Présent face à la presse, Thomas Barr a assuré que l'instance actera son choix en temps voulu et à sa seule discrétion. En revanche, ça c'est important, le CIO a recommandé le retour des Russes en compétition à titre individuel et neutre. Les athlètes qui soutiennent activement la guerre ne peuvent pas concourir. Il faut aussi qu'ils n'aient pas soutenu activement le conflit en Ukraine et ne soient pas actuellement sous contrat avec l'armée et les organes de sécurité russes. Désaccord profond côté russe, le comité olympique a déclaré et a dénoncé des critères inacceptables, discriminatoire, déplorant une farce. Les principes du CIO et de l'ONU sont bafoués. Désaccord également de l'Ukraine. Le gouvernement ukrainien a donné ordre à ses athlètes de boycotter les compétitions dans lesquelles s'engagerait la Russie ou les Biélorusses. Stephen Brun. Non, tu veux peut-être pas y aller tout de suite. David Douillet.
Ouais. On est sur un bon bazar.
C'est en fait, il faut. Moi, je pense que dans ce genre de situation, il faut penser à l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est voilà, la Russie va pas disparaître de la planète. Il va falloir.
L'Ukraine peut-être.
J'espère que non. Voilà, et j'espère que ça ne se fera pas. Et on sera tous là pour la protéger. Et c'est déjà le cas. Mais en tout cas, voilà, on est sur la même boule et il faut qu'on vive ensemble. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Donc, évidemment, si on a des athlètes pro-Poutine, etc., qui sont très engagés, c'est inacceptable. Voilà, cela, on n'a pas besoin. En revanche, on peut commencer à construire l'avenir avec les autres, qui n'ont pas pris position, qui subissent la même chose, même s'ils sont russes, ils subissent ce qui se passe dans leur pays. Et je trouve que de les écarter, c'est les corneriser, c'est justement là... pour le coup, leur dire, ben voilà, vous n'existez plus. Alors que, en réalité, les premières actions de paix, les premières avancées, si elles peuvent venir par le monde du sport, pourquoi pas? Voilà, le sport est un objet diplomatique. Le sport est géopolitique. Donc, si je trouve que si c'est une erreur de fermer la porte à des gens avec lesquels il faudra construire un futur. Je ne parle pas du futur de Poutine forcément, mais un futur avec une Russie pacifiée, une Russie pacifiste, une Russie normale, quoi. Voilà, et pas belliqueuse comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, c'est plus dans un objectif d'avenir et de construction de l'avenir que je me positionne dans cette voie-là, voilà. Et je trouve que c'est plutôt bien les accepter.
On est parti pour un bon bazar. Et d'après les critères, ça veut dire qu'il faudra faire du cas par cas. Il va y avoir du boulot au CIO, hein, pour éplucher tous les comptes Twitter, Facebook, Instagram de chaque athlète russe pour savoir tous les.
Je dirais même pas le CIO. Surtout, ils rejettent ça aux fédérations.
Oui, voilà. Débrouillez-vous, choisissez. Mais vous n'êtes pas à l'abri que finalement un athlète russe soit en compétition et que vous découvrez que il a eu des mots pro-Poutine. Bref, il faut aussi noter que Wimbledon va réautoriser les joueurs russes. Et biélorusses sous bannière neutre à participer au tournoi alors que l'année dernière ils avaient été interdits. J'ai quand même bien l'impression qu'on se retrouve, qu'on se dirige vers une porte semi-ouverte pour la Russie et les Biélorusses.
Et il y a quelques heures, l'Ukraine a réagi sur cette décision de Wimbledon en disant que cette décision était immorale.
Oui. Et puis on a vu cette semaine, ces 15 derniers jours, des joueuses parfois faire forfait, des joueuses ukrainiennes pas jouer contre des joueuses russes ou biélorusses. Ça va être un foutoir pas possible. Est-ce que privilégier le retour des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre au profit de se priver éventuellement d'un boycott des Ukrainiens et d'autres pays alliés de l'Ukraine. C'est une histoire très complexe. Écoute, il va y avoir beaucoup de choix à faire. Ça va être très compliqué.
Et on en reparlera évidemment dans cette émission.
Je pense que Anne Hidalgo doit trancher cette question et voilà.
Donner la réponse. Très bien. ça fait marrer David Douillet, en tout cas l'ex-RPR, si j'ai bien compris.
C'est ça,
dans cette émission. Il est 9h56, j'ai une annonce importante à vous faire. Alors, ceci est une alerte enlèvement. On a perdu le second degré de Christophe Cessieux. Si vous le retrouvez, n'intervenez pas seul. Surtout, n'intervenez pas seul. Composez le 32-16. Si vous retrouvez,
tu me donnes pas la parole. J'ai des choses à dire sur la Russie et l'Ukraine.
Si vous retrouvez,
tu viens pas vers moi.
Si vous retrouvez l'humour de Christophe Cessieux qui ne voulait pas parler durant le zapping car nous avons eu maille à partir, n'hésitez pas. Mais surtout, je vous le répète, n'intervenez pas seul. Christophe Cessieux, tu nous manques. À tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.